Les carnets du soir, avec l'abbé Denis Veilleux.
Les carnets du soir vous proposent de me suivre comme pèlerin dans différents lieux à Rome, la ville éternelle. Je vous livre différentes pensées et réflexions. Suivez-moi dans cette réalité. Alors, dans la famille des nobles, ici en Italie, il y a quelqu'un qui meurt. Quelqu'un d'âgé qui va mourir, donc il faut préparer les obsèques. C'est dans ce contexte que Alphonse, avec ce noble, va un jour se déplacer dans Rome parce que le noble doit préparer les obsèques. Il doit rencontrer le prêtre qui va présider aux obsèques. Il doit s'entretenir avec lui. Et là, il entre dans cette église de Sant'Andrea delle Frate. Et il demande, il n'impose pas à Alphonse de Ratisbonne d'entrer dans l'église. Mais Alphonse va entrer et l'autre va aller à la sacristie pour rencontrer le prêtre. Il a un rendez-vous en vue des obsèques. Donc, le noble rencontre à la sacristie le prêtre en question, tandis que Alphonse est là dans cette église avec cette colère qui est en lui. Il n'est pas bien, il n'est pas bien. Et il le regarde un peu. Et voilà que se produit l'apparition de la Vierge Marie dans un endroit très précis, au-dessus d'un autel. Vous savez, les autels latérales, hein, il y a des petits autels qui sont dans la nef, comme ça. On voit ça dans les chapelles. Ce n'est pas le maître autel, donc le cœur, mais une autel latérale. Et là, le 20 janvier 1842, je ne sais pas à quelle heure, arrive cette apparition de la Vierge Marie. Alphonse est témoin, seul, de cette apparition. Elle ne dit rien. Il n'y a pas de parole, aucune parole. Mais elle se montre avec cette majesté, cette bonté. Elle a les mains aussi tournées vers lui, des mains qui expriment aussi la lumière. Je ne sais pas combien de temps ça dure, mais les quelques secondes où Alphonse, Marie de Ratisbonne, va... Je dis, voyez-vous, je viens de prononcer Marie, vous allez comprendre pourquoi. Alphonse de Ratisbonne, ce juif de 25 ans fiancé, dans cette église, fait l'expérience de l'apparition de la Vierge. Sa vie va complètement changer. Complètement changer. Et là, celui qui est allé à la sacristie va revenir dans l'église et il retrouve ce jeune homme qui est complètement bouleversé par ce qu'il vient de vivre. C'est non seulement une apparition, mais c'est son cœur qui a été touché. Il est complètement bouleversé de ce qu'il a vu et ce qu'il a vu est entré en lui, dans son cœur. Et là, il va s'ouvrir à la foi chrétienne et à la foi catholique. Ce sera un événement majeur. Dans les premiers jours, ici à Rome, ça se parle. Et les nobles, justement, les familles nobles qui l'ont recueilli, qui l'ont accueilli, qui lui ont proposé la médaille miraculeuse, qui lui ont donné cette prière, eh bien, ils voient stupéfaits ce qui vient d'arriver à ce jeune juif banquier dont l'avenir est assuré en vue du mariage. Alors, il voit les fruits. Donc, Alphonse va commencer à demander, à poser des questions, et progressivement, il est introduit dans la compréhension du mystère de la présence de Marie, de Jésus, de l'Église. C'est ça. Il est comme un aveugle qu'on prend par la main et progressivement sera guéri de cette cécité qui le mettait en colère et de cette foi qu'il n'admettait pas. Je sais, d'après l'histoire et les biographies, qu'on lui fera rencontrer le pape de l'époque. Donc il va rencontrer le pape et il a le projet aussi de... Il laisse tout là. Il laisse... Son projet de mariage, c'est terminé. Son projet de banquier, c'est terminé. Il veut vraiment se consacrer à Dieu. Il veut se consacrer à Dieu au sein même de l'Église, de cette Église catholique. Après cette histoire de l'apparition de la Vierge Marie, l'Immaculée Conception. De fil en aiguille, certainement que son frère aîné, qu'il détestait tant, Théodore, qui a fondé les Pères de Sion, Théodore de Ratisbonne, alors sera mis au courant. Et là, il y aura une réconciliation extrêmement profonde entre le cadet et l'aîné. Ils vont se rencontrer, l'expérience spirituelle sera commune, et Alphonse de Ratisbonne va entrer dans la congrégation des Pères de Sion fondée par son frère aîné, dont la mission est justement cette ouverture du côté du peuple juif afin d'annoncer simplement l'Évangile. C'est la raison pour laquelle, je vous disais tout à l'heure, je l'ai appelé Alphonse-Marie de Ratisbonne. Donc, il va prendre comme nom de religieux Alphonse-Marie de Ratisbonne. Il va intégrer l'expérience de l'apparition de la Vierge dans son nom. Et plus tard, il sera envoyé à Jérusalem, parce que c'est la mission des Pères de Sion. Les Pères de Sion ont comme mission l'annonce de l'Évangile dans les milieux juifs. Donc il se rend à Jérusalem et là il faut qu'il cherche une école, un endroit, bon, donc il cherche beaucoup dans la vieille ville et il va acheter des terrains, comme des ruines aussi, parce qu'il va falloir reconstruire, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Institut de Lecce Homo. Voici l'homme. Alors au moment où il achète ce terrain, les gens de l'entourage parlent de la Via Dolorosa, donc qui passait le chemin de la croix, hein, qui passait par là, et la tradition orale dit toujours que c'est là où Jésus, rencontrant Pilate, eh bien, finit par entendre cette parole de Pilate au peuple, « Voici l'homme, ecce homo, voici l'homme ». Alors, on sait que Jésus a été amené par les grands prêtres pour être justement jugé par Ponce Pilate et faire en sorte que on puisse en finir avec cette histoire. On la connaît, l'histoire. Donc, Pilate n'est pas bien dans tout cela. Il sent bien que c'est quelque chose, c'est un montage, c'est quelque chose qui est monté de toutes pièces. Alors il essaie de repousser, il repousse une première fois, deuxième fois. Il propose même de le libérer dans le cadre d'une sorte d'amnistie qu'on fait en temps pascal. Et entre Barabbas et Jésus, il espère bien qu'on va libérer Jésus, parce que Barabbas est un criminel connu. Eh bien non, c'est Barabbas qui a la palme de la liberté. Et il fera flageller Jésus, et enfin il le livre pour qu'il soit crucifié. Ecce homo, voici l'homme. Lorsque Jésus a été battu, flagellé, couronné d'épines, ayant sur les épaules le manteau de pourpre, il est présenté au peuple de cette façon. Voici l'homme, ecce homo, voici l'homme.
Voici maintenant les épistolaires. Il s'agit de 17 parchemins de Bernardo di Perugia à son ami Béic, dit la fleur. Vous serez au XIIIe siècle en Italie. vous aurez compris que ce sont des personnages fictifs que j'ai inventés et dont je suis l'auteur. Fascinant. Prise de son, Yannick Caron. Musique et bruitage, François Couture. « Bien cher Béic, dit la fleur, vous devez entendre la même chose que moi. L'interminable conclave qui n'aboutit pas. Centrifuge entre les Romains et Milan, et centripète du côté florentin et sud. On a beau les affamer, les cardinaux sont têtus. L'Église est bien humaine. Nous en avons l'illustration. Pendant ce temps, cela fourmille un peu partout et les gens en profitent pour faire et dire n'importe quoi. Un hurluberlu s'improvisait hier pour nous annoncer les jours de l'Antéchrist. Tandis qu'une autre y voyait les résultats du schisme entre l'Occident et l'Orient. De quoi en perdre la vraie foi. Nous sommes toujours menacés d'hérésies de toutes sortes, mais des plus farfelues. Dieu n'a pu être homme, l'homme ne peut être Dieu en la personne du Nazaréen, quand ce n'est pas la Vierge Marie qui n'est plus vierge, et toutes les litanies des maladies truffées de pustules envers notre religion. Savez-vous ce que je fais lorsque j'entends ces choses? La même gestuelle que Jésus, qui écrivait sur le sol, lorsque ces hommes affamés de culpabilité tenaient leurs pierres dans les mains pour lapider sur le champ une femme adultère, au moindre oui du Fils de l'homme. D'abord, on vient mettre son nez pour voir ce que j'écris. Puis, ne trouvant rien, des inconnus disent que je suis sourd-muet. Voilà la belle affaire. Nous sommes dans un monde de malentendus et de malentendants, cher Béic. Identique au conclave actuel, qui ne s'entend pas sur le successeur de Pierre. Je vous avoue avoir hâte d'arriver à Perugia. Mais je ferai une escale à Assisi et me rendrai peut-être à San Damiano. Afin de prier, et qui sait, de revoir le regard qui ne me laisse pas d'admirer. J'espère que votre cousine se porte bien. Elle doit être dans tous ses émois, comme les autres sœurs, à attendre le prochain pontife. Il faudrait que le Francesco et la Chiara descendent un peu pour faire monter le cœur des cardinaux vers l'unité. Je prie pour vous. Bernardo di Perugia. Thank you. C'était les Carnets du soir avec Denis Veilleux qui vous parle. Réalisation technique, Yannick Caron.